C'est pas normal, ça. C'est pas normal. La crise de 2008, ça se passait aux États-Unis. Les subprimes, c'était aux États-Unis. Les chocs que nous avons subis ces 15 dernières années sont toujours des chocs qui sont externes. Nous sommes dans une économie mondialisée. À partir du moment où les prix de l'énergie augmentent, vous avez un impact sur les prix. Mais après, comme il y a un manque de transparence entre ce qui se passe en amont et les prix que nous achetons en aval dans les supermarchés, il y a un certain nombre de gens qui se sucrent entre l'amont et l'aval. Il y a une vraie hypocrisie.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porché. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, de faire le tri et de décrypter. Avant de commencer, on vous dit un petit quelque chose. Les autorisations des 15 chaînes nationales de la TNT arrivent à échéance en 2025. L'Arcom a donc lancé un nouvel appel à candidature qui représente une opportunité pour le média. Nous allons déposer un dossier de candidature pour être diffusé sur la TNT. Une tâche loin d'être simple, voilà pourquoi on en appelle aux spécialistes des médias, de la télé, juristes, experts et experts techniques pour nous aider à monter ce dossier de candidature et marquer un nouveau tournant historique dans l'histoire des médias indépendants et engagés. Soutenez-nous, abonnez-vous, parlez de nous, parlez de vous. Bonjour Thomas.
Salut Lisa.
Alors avec toi aujourd'hui au programme, escalade Israël-Iran, quelles conséquences? Et on va décrypter les idées, des idées reçues sur le continent africain. C'est parti. La région proche Moyen-Orient est-elle en train de s'embraser? Quelles conséquences d'un point de vue économique pour le monde entier? La semaine dernière, Israël promettait une riposte après l'attaque des drones de l'Iran le week-end précédent qui faisait suite à la frappe mortelle imputée à Israël contre le consulat de l'Iran à Damas le 1er avril dernier et qui avait fait 13 morts. De hauts responsables américains font état d'une attaque israélienne malgré les appels au calme de nombreux pays, y compris son allié américain vendredi dernier. De fortes explosions ont été rapportées tôt dans le centre de l'Iran cette journée-là. Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer, a prévenu sur France Info le professeur émérite Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales qui intervient aussi sur notre antenne dans l'émission « Le monde n'a pas de centre ». La région est au bord du précipice, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. D'autre part, les raids israéliens continuent en Cisjordanie et dans la région de Gaza. Il est bon de le rappeler, nos questionnements économiques sont évidemment secondaire au regard de la catastrophe humanitaire en cours. L'offensive actuelle a plongé Gaza dans une crise humanitaire déplaçant plus de 80% de la population et laissant plus d'un million de personnes dans une famine désastreuse. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a fait plus de 34 000 morts, dont plus de 14 000 enfants. Thomas, on va revenir à l'économie et à la géopolitique. Quel impact pourrait avoir l'escalade au Proche et Moyen-Orient avec l'Iran là, qui entre dans l'équation ?
C'est ce qu'on avait dit au début. Je me souviens qu'on avait fait une émission il y a quelques mois après le 7 octobre pour parler des conséquences, bien sûr, économiques d'un embrasement du conflit au-delà d'Israël. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette frappe de l'Iran. C'est que l'Iran est un pays pétrolier important qui fait partie de l'OPEP, très gros pays pétrolier. Et c'est aussi un pays important en termes de production de gaz. Si vous voulez, vous avez trois pays dans le monde, la Russie, le Qatar, l'Iran, qui représentent quasiment plus de 50% des réserves de gaz au niveau mondial. Donc là, à partir du moment où vous touchez un pays qui a des réserves de gaz aussi importantes et une production de pétrole aussi importante, vous êtes sûr que sur les marchés internationaux, si le conflit recommençait, et ce n'est pas le cas, a priori ça devrait se calmer, mais si ça continuait aussi, les tensions augmentaient, vous allez avoir un impact très fort sur les prix du pétrole, est très fort sur les prix du gaz. Alors, il se trouve que nous sommes dans une situation où nous consommons un peu moins d'énergie parce que le printemps arrive, mais on ne sait jamais. Il y a les départs en vacances, etc. Et donc, il peut y avoir un impact de la hausse des prix du pétrole et de la hausse des prix du gaz. Donc, il y a effectivement un impact possible sur les prix de l'énergie.
Ça montre aussi notre interdépendance économique vis-à-vis de cette région-là et comment les pays européens et autres sont vraiment impliqués dans la région d'un point de vue économique ?
À partir du moment où nous ne produisons pas de pétrole, donc nous importons 2 millions de barils par jour. Le problème, c'est que ce pétrole, aujourd'hui, ne dépend pas de là où nous le puisons. Il dépend d'un prix du marché déterminé sur les marchés financiers et au niveau mondial. Et donc, comme on a une consommation qui est assez proche de l'offre, dès qu'il y a un impact sur un gros producteur, c'est le cas de l'Iran, et ben vous avez les prix qui flambent. Et donc, vous avez des impacts ensuite indirects sur l'économie française et même les économies européennes, qui sont des grosses consommatrices.
Justement, quel impact ça pourrait avoir sur l'économie française, du coup ?
Eh ben, on revient un petit peu au cas de ce qui s'est passé avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il faut se rappeler que notre inflation en France était due à 60% au prix de l'énergie. 60% au prix de l'énergie. Donc là, vous voyez, si on a un conflit qui s'ajoute supplémentaire, il risque d'y avoir des tensions très fortes sur les prix de l'énergie, comme on a dit. Et donc, ça risque d'avoir un impact sur les prix de manière globale. Nous sommes dans une économie mondialisée. La plupart des choses que nous consommons nécessitent un coût de transport. À partir du moment où les prix de l'énergie augmentent, vous avez un impact sur les prix. Mais après, comme il y a un manque de transparence entre ce qui se passe en amont et les prix que nous achetons en aval dans les supermarchés, il y a un certain nombre de gens qui se sucrent entre l'amont et l'aval, et ce qui fait que ça fait encore plus augmenter les prix que l'impact que pourraient avoir les prix de l'énergie sur les prix finaux.
Tu le disais, on est dans une économie mondialisée. Est-ce que ça montre aussi que nos économies sont extrêmement fragiles à ces moments-là ?
Mais nos économies sont très fragiles. Nous l'avons vu, en fait, ce qui est assez étonnant, et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que les chocs que nous avons subis ces 15 dernières années sont toujours des chocs qui sont externes à la France. C'est la crise de 2008, et la crise de 2008, ça se passait aux États-Unis. Les subprimes, c'était aux États-Unis. Mais ça a impacté les banques européennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interdépendance, parce que des banques européennes ont acheté des titres pourris aux États-Unis. Parce qu'il y a un système financier mondialisé. La crise du Covid a aussi impacté très fortement notre économie en France. Parce que nous avons eu des problèmes avec des médicaments, nous avons eu des problèmes dans la fabrication de masques, nous avons eu un certain nombre de problèmes, et ça a rappelé la faiblesse de notre souveraineté économique, sans compter l'austérité budgétaire, etc. Pareil pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu un impact sur les prix de l'énergie qui a entraîné de l'inflation, mais qui a aussi fait grimper très fortement les prix d'électricité. Et là, c'est la même chose. La réalité, en fait, de notre économie, c'est que nous avons organisé avec la mondialisation une espèce de grande vulnérabilité. Et qu'aujourd'hui, un choc à l'autre bout du monde a un impact chez nous beaucoup plus fort que si nous avions, sur un certain nombre de secteurs, voulu organiser la souveraineté. Et nous sommes un des pays pour qui le choc énergétique est le moins élevé, parce que nous avons quand même une grosse part de production d'électricité qui est nucléaire et donc qui est fait sur notre territoire. Mais il y a quand même des questions à se poser sur notre consommation d'énergie, notre production, mais également de manière générale dans notre industrie, où est-ce que nous ne voulons pas être dépendants de l'étranger ? Parce qu'on se rend bien compte que n'importe quel choc a un impact in fine chez nous, et on se rend compte que pour la production de médicaments, ce serait mieux que ce soit chez nous. Pour la production d'électricité, c'est mieux que ce soit chez nous. Ce serait pas mal qu'on consomme moins d'énergie parce que la croissance de la consommation fait que ça augmente notre vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ces crises-là doivent nous rappeler qu'il faut avoir une politique industrielle et repenser un peu la souveraineté à l'échelle de notre pays.
Vous nous connaissez, dans l'Instant Porcher, on adore déconstruire les idées reçues en économie tant elles ont la vie dure et servent les décideurs politiques tous les jours. Il y a près de 10 ans, Thomas, tu as écrit avec Raphaël Bourremont et Stéphane Gout les 20 idées reçues sur l'énergie, et vous rééditez ce livre aujourd'hui. Et vous aviez prédit plusieurs choses, hein. Vous vous attelez notamment à des idées reçues concernant le continent africain. Avec cette idée, les pays pauvres et producteurs de pétrole ne se développent pas en raison de la corruption. Pourquoi avoir choisi cette idée reçue ? Qu'est-ce que vous vouliez expliquer là ?
En fait, ce qui est assez marrant, c'est que pendant très longtemps, les institutions internationales, type FMI, Banque mondiale, mais aussi des économistes célèbres du monde entier, pointaient du doigt la corruption dans les pays pauvres pour expliquer leur manque de développement. Ça a amené à toutes les réflexions sur le rôle des institutions dans le développement. Or, quand on regarde l'histoire, des pays, y compris les nôtres, se sont développés avec des institutions beaucoup plus corrompues que les pays africains aujourd'hui. Il y a des problèmes de corruption parfois dans des pays comme la Chine, où il y a des grosses affaires de corruption, et c'est pourtant des pays qui arrivent à se développer. Donc la corruption est certes quelque chose qu'il faut combattre, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le combattre, mais ça ne peut pas être le facteur unique qui explique le sous-développement. C'est parfaitement faux. Et en fait, je me base dans le livre, c'est intéressant, sur un article qui avait fait pas mal d'écho, qui avait été publié au Wall Street Journal, d'une journaliste chevronnée qui s'appelait Claudia Rosset, qui avait publié un article qui dont le titre était « Des dollars pour les dictateurs ». Et qui avait publié cet article suite à la venue de Sassou Nguesso, le président du Congo, aux États-Unis. Et dans ses calculs, elle montrait en fait la production pétrolière au Congo, combien étaient évalués les revenus des Congolais. Et elle déduisait de cet article que le président de la République du Congo, Sassou Nguesso, volait $300 par habitant au Congo. Alors, ça avait beaucoup marqué les gens parce qu'ils s'étaient dit quand même 300 dollars par Congolais, c'est énorme. Et en réalité, son calcul était faux. Ça ne veut pas dire que la corruption n'existe pas, mais son calcul était faux. Parce que si on prenait les mécanismes de partage de production, c'est-à-dire la part qui va à la compagnie pétrolière et au pays. Parce que vous savez, au Congo, les deux principales compagnies pétrolières sont des compagnies privées, européennes, Total et l'italien Agip, Eni. Et en fait, ces compagnies qui ont 90% de la production, quand elles produisent, elles exploitent du pétrole congolais, elles prennent une partie pour elles, parce qu'elles ont financé l'exploitation, et elles donnent une partie à l'État congolais. À l'époque de l'écriture de cet article, l'État congolais récupérait un tiers de la production, et la compagnie deux tiers. C'est quand même énorme, c'est-à-dire que le Congo produisait 90 millions de barils par an, il y avait deux tiers qui allaient dans les poches des compagnies, et un tiers seulement au Congo. Et donc les 300 dollars qui disparaissaient, que Mme Rosset disait que ça allait dans les poches du président de la République, en réalité, ça allait juste dans les poches légalement des compagnies. Et c'est là qu'elle s'était trompée. En fait, comme elle ne connaissait pas les contrats de partage de production, pour elle, ça allait dans la poche de Sassou. Mais ça allait en fait dans la poche des compagnies. Ce qui veut dire que la corruption au Congo se fait sur une partie encore plus faible des revenus. Mmh. Ça se fait en fait sur les un tiers qui restent. Vous voyez, la réalité, en fait, c'est que si demain, les gens ont envie que ces pays se développent, la première des choses qu'il faut faire, c'est que les gouvernants, par exemple du Congo, soit beaucoup plus agressif dans la négociation des contrats pétroliers pour récupérer une plus grosse part du gâteau. Parce qu'à cette époque, ils récupéraient une part très très faible en réalité. Vous voyez ? Donc tous les pays pétroliers qui ont réussi à se développer sont des pays qui ont des conditions particulières, c'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup, ils produisent énormément, ce qui n'est pas le cas du Congo. Hein. Le Congo est loin de la production du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Mais la deuxième condition, c'est qu'ils ont une compagnie publique nationale. C'est-à-dire que quand le Qatar produit, il récupère 100%. Quand l'Arabie saoudite produit, elle récupère 100%. Quand le Congo produit, il récupère qu'une petite partie. À l'époque, c'était un tiers. Aujourd'hui, c'est un peu plus, hein, avec l'augmentation des prix. Mais il récupère qu'une petite partie. Donc, à partir du moment où vous récupérez qu'une partie de cette production, il faut avoir une stratégie d'agressivité envers la compagnie pour récupérer beaucoup plus. C'est les conditions. On ne peut pas avoir de développement sans financement. Et les recettes pétrolières sont un des financements, pas le seul, mais un des financements nécessaires pour financer des infrastructures.
Oui, parler de corruption, c'est un peu un regard infantilisant en fait sur des pays africains en disant bon, bah, votre problème c'est la corruption, c'est pas du tout l'accaparement des richesses de compagnies privées ou même de pays occidentaux qui sont bien contents que ces pays ne soient pas développés.
Tout à fait. Là, c'est exactement ça. Il y a un tas de problèmes sur le développement de pays, par exemple pétroliers ou producteurs de matières premières, notamment en Afrique. C'est que quand vous faites du pétrole, le prix du pétrole, c'est pas vous qui le maîtrisez. Alors il peut augmenter. Là, par exemple, si, avec l'aspect géopolitique dont on a parlé, avec l'Iran, le prix du pétrole augmente, c'est un effet d'aubaine pour le Congo, il est très content. Mais il peut aussi chuter fortement. Il est arrivé à zéro au moment du Covid. Donc là, il n'y a plus de rentrée pour le Congo. Il ne maîtrise pas les volumes de production. Parce que les volumes de production, c'est la compagnie qui décide. Quand le prix est faible, elle ralentit la production. Quand le prix est élevé, elle augmente. Voyez ? Et donc, votre économie est basée sur des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est quand même hallucinant. Donc le développement est très difficile dans ces conditions-là. Et la dernière chose, c'est que les pays pauvres ont difficilement accès au financement. Nous levons de l'argent très facilement, à des taux très très faibles, avec une dette très élevée, ce qui n'est pas un problème. Eux ont des dettes très faibles, qui sont rapidement des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à lever de l'argent. C'est pour ça qu'ils font des prêts à des États, notamment la Chine, qui a réussi à s'insérer très rapidement en Afrique parce qu'elle faisait des prêts. Aux États africains, eux n'arrivent pas à avoir des prêts, sauf des prêts du FMI qui leur imposent des politiques d'ajustement structurel qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc ils sont vraiment dans une trappe à sous-développement qui est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre la corruption, mais la corruption est un des éléments et les autres éléments ne sont jamais cités, alors que ce sont des éléments très importants pour développer certains pays africains.
Tu dénonces aussi des politiques climatiques injustes à l'égard des pays.
Oui. Il y a eu un moment dans le livre, on en parle, parce que ce livre a été écrit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était quand même très peu nombreux à parler de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait une pensée dominante, il faut le dire, dans l'énergie, il y avait une pensée dominante. Aujourd'hui, la majorité des gens, y compris les économistes, remettent en cause, sont plutôt d'accord avec nous. Mais ce n'était pas le cas. À la COP21, en 2015, il y avait tout un débat sur le prix unique du carbone, défendu par un prix Nobel français qui disait qu'il faut un prix unique du carbone, et puis des transferts entre pays, etc. C'est-à-dire qu'il partait du principe que les émissions de CO2, elles portent atteinte au climat. Et donc que chaque émission doit être taxée par un prix du carbone. Sauf que les émissions, je ne sais pas moi, d'un pays comme le Mali qui émet 0,05 tonnes de CO2 par tête et qui va demain construire un réseau d'eau ou même des infrastructures de transport ou des infrastructures routières pour se déplacer, va émettre des émissions de CO2. Et celui-là paiera la même taxe carbone qu'un centre commercial à Boston ou à Paris. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Il faut un prix du carbone qui soit progressif et qui tienne compte du niveau de développement. Quand vous êtes pauvre et que vous vous développez, vous allez consommer de l'énergie. C'est normal. Pour des choses bien, c'est normal. Plus vous devenez riche, plus la consommation d'énergie, elle est faite pour des choses futiles. Et c'est là que ça devient normal. C'est là qu'il faut mettre en place des politiques, soit d'interdiction, soit de taxation, etc. Parce qu'on rentre dans le futile. Donc c'est important de rappeler ça, parce que pendant très longtemps, on disait grosso modo, et c'est un peu l'esprit de la COP21, cette horizontalité que chacun doit faire des efforts, le Mali comme les États-Unis. Moi, je suis contre. Les États-Unis doivent faire plus d'efforts. Le Mali, il n'a pas d'efforts à faire parce qu'il émet très peu de tonnes de CO2 et qu'il faut qu'il se développe.
Dans ce livre, vous parlez d'une pensée dominante, hein, comme tu viens de dire, le fonds en faveur des générations futures. Pour la faire courte, c'est un fonds qui compensera les baisses de revenus liées à l'épuisement du pétrole, qui est une ressource non renouvelable. Et la Norvège a fait ce choix et est citée comme un modèle à suivre. Thomas, tu dénonces une certaine hypocrisie où un modèle sur un pays riche ne peut pas s'appliquer sur un pays en développement.
Tout à fait. Alors ça, c'était la grande mode, repris aussi par des associations de la société civile africaine qui disaient qu'il fallait un fonds pour les générations futures. C'est-à-dire que, vous savez, le pétrole, comme il s'épuise, les réserves s'épuisent par exemple au Gabon, et ben donc il y a une génération qui en aurait profité, et puis après, ils n'ont plus de revenus, et donc il faut mettre sur un compte une partie des revenus pour les faire fructifier et les donner aux générations futures. C'est ce que fait la Norvège avec son fonds, qui est un des fonds souverains les plus élevés. C'est ce que fait aussi le Qatar, qui est un fonds souverain. C'est ce que fait l'Arabie Saoudite, quoi, qui est un fonds souverain. Alors ça, c'est des pays qui produisent énormément de barils de pétrole. C'est des pays plutôt développés, avec un PIB par habitant élevé. Ce n'est pas le cas, par exemple, du Tchad. Le Tchad a expérimenté ça. C'est-à-dire que la Banque mondiale a accepté de faire un prêt au Tchad en échange de la création d'un fonds pour les générations futures. 10% de la production pétrolière tchadienne a été placée sur un compte à Londres, en dehors du pays, pour les générations futures. Alors déjà, on peut s'interroger sur ce type de politique qui vise à extraire une partie des ressources et à les mettre dans un autre pays. Enfin, je trouve pas ça, moi. On n'accepterait pas de faire ça chez nous. Et là on l'impose à des pays pauvres. Et surtout, ce sont des pays où 80% de la population vit avec moins d'un dollar, qui ont des besoins maintenant, des besoins. Vous savez, pour sortir un pays de la pauvreté, il faut donner 100 dollars par an en investissements sociaux, hein, 100 dollars par an par habitant sur 10 ans. Et vous éradiquez la pauvreté. Des calculs d'un économiste Sachs, très bon économiste. Donc, je veux dire, les besoins aujourd'hui, chaque dollar compte. Et vous allez dire à des pays pauvres qu'il faut qu'ils créent un fonds pour les générations futures. Il y a une vraie hypocrisie. Le Congo, le Tchad, le Gabon, ce n'est pas la Norvège. Il faut donner de l'importance aux investissements sociaux, bien sûr. Il faut que les gouvernements s'en emparent. Pas les institutions internationales qui les imposent au gouvernement. Il faut que les gouvernements comprennent que les investissements sociaux sont importants. Mais les générations futures, le fonds pour les générations futures, c'est quelque chose de complètement idiot. Et d'ailleurs, la grande hypocrisie qu'il y a là-dessus, c'est que vous avez un pays qui a augmenté drastiquement sa production de pétrole de 3 à 4 millions de barils par jour, qui s'appelle les États-Unis, avec les pétroles de schiste, et qui n'a jamais fait un fonds pour les générations futures. Moi, dans une commission, en France, quand on voulait exploiter le pétrole de schiste, pour rigoler, j'ai dit ça pour rigoler. Parce que j'avais insisté, moi, quand j'étais au Congo, à des réunions avec des organisations internationales, où ils demandaient toujours au Congo où le fonds pour les générations futures. C'était vraiment la question un peu qui était embêtante. Vous avez fait un fonds pour les générations futures. Et quand il y a eu ces débats en France sur le pétrole de schiste, j'étais reçu au ministère de l'écologie à l'époque, et j'avais dit, moi, est-ce qu'on a pensé à faire un fonds pour les générations futures? Et tout le monde a rigolé. Il dit, c'est pas la question. Je dis, mais comment ça, c'est pas la question? Pourquoi c'est pas la question chez nous et c'est la question en Afrique? Il y a une hypocrisie. Là, nous, on était prêts à... Il y avait quand même des gens comme Rocard qui disaient qu'on était le Qatar, même Madame Lauvergeon qui disait qu'il fallait faire des trous, creuser, que ça allait profiter à tout le monde. Mais la question des fonds pour les générations futures, il ne fallait pas en parler. Vous voyez, il faut en parler en Afrique, mais il ne faut pas en parler aux États-Unis, il ne faut pas en parler au Canada, il ne faut pas en parler en France, il ne faut pas en parler dans toute l'Europe. Donc il y a une forme d'hypocrisie où on a l'impression que, attention, les pays africains, ils sont corrompus, ils savent mal gérer, donc on doit leur imposer des choses que nous ne nous imposons pas chez nous.
Pour les Parisiens, ne loupez pas l'info. Mercredi soir à 18h30, Thomas organise une rencontre à la librairie Erol, boulevard Saint-Germain à Paris. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, hein, urgente. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Abonnez-vous au Média à partir de 5€ par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne télé d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la télé. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.